Voir passer le genre et l'amour innocent entre deux caresses. Ce sera ton tour du premier amour. J'avais pris l'instant fibre de Madeleine, une douce claque. Les dieux sont des enfants à qui l'on donne tout, sauf notre âme. Je voudrais pas dire, mais les filles qui ont les yeux vendus au diable, c'est plus généreux que les promesses dans les cieux.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme toutes les semaines. Pour nous écrire, l'entonnoir, c'est à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Pour nous appeler pendant les plages musicales, c'est le 01 43 71 89 40. Et vous pouvez toujours soutenir la radio. La carte d'auditeur est disponible, 20 euros à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, même adresse, 11e, métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République, ou par correspondance à la même adresse, chèque à l'ordre de DMC. Vous pouvez aussi souscrire aux amis par l'intermédiaire de l'association des Amis de Radio Libertaire sur le site radio-libertaire.net. Bonjour Jean-Luc, bonjour Ida.
Bonjour Denis, bonjour tout le monde.
Salut à tous, toutes. Il faut quand même préciser pour écrire que, avec modération quand même, parce que rue Amelot, ils sont submergés de courrier, donc soyez raisonnable.
Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, qui ont été audiencés
auditionnés.
Auditionné, c'est ça, merci Ida, par la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, et par les psychiatres référents du groupe de travail sur les soins sans consentement et les pratiques d'isolement et de contention. Ces psychiatres étant les docteurs Jean-Louis Senon et Michel Triantafilou, chef de pôle. Et donc, à cette occasion, le CRPA a rappelé ses revendications et ses positions par rapport à la situation psychiatrique actuelle. Et donc, ils ont été trois à représenter le CRPA, mesdames Yael Friedman, Pauline Renter et André Bitton. Président de l'association. Nous avons été auditionnés, écrit André Bitton, nous avons été auditionnés par deux chargés de mission du bureau santé mentale de la DGOS, un fonctionnaire du bureau santé mentale de la DGS, Direction Générale de la Santé, et les deux psychiatres précédemment mentionnés. Notre audition a duré 1h10. Nous avons été écoutés attentivement. Certaines de nos propositions ont prêté lieu à un échange de questions et de réponses. Nous ignorons tout de ce qui ressortira d'un tel entretien. Le docteur Jean-Louis Senon nous a précisé que leur groupe de travail a auditionné antérieurement les principaux représentants institutionnels du terrain psychiatrique, les représentants des directeurs d'établissements psychiatriques, la conférence des présidents des commissions médicales des CHS. Alors, CHS, c'est le nom actuellement qu'on donne aux hôpitaux psychiatriques. L'UNAFAM et la FNAPSI. Je précise, écrit André Bitton, que nous avons fait chorus contre l'étouffement institutionnel de nos voix et de nos contenus par les porte-paroles habituelles du terrain psychiatrique. C'est-à-dire que les trois personnes du CRPA ont fait chorus au cours de l'audition. Pour dire la même chose, l'étouffement des voix des patients, de la voix des patients. Pour l'essentiel, nos propositions sont de consacrer plus de temps et de moyens à l'accueil des personnes qui vont mal ou sont en crise et d'ouvrir des alternatives à l'hospitalisation sous contrainte, avec pour exemple le lieu de répit à Marseille. Ce qui implique de développer une politique d'accès aux droits pour les patients pris en charge en psychiatrie plus authentique et plus effective que ce qui est en place actuellement dans les établissements psychiatriques ainsi que dans les secteurs. En pratique, actuellement, les personnes psychiatrisées ne sont pas ou peu ou très mal informées sur leurs droits et ne peuvent pas en pratique mettre en œuvre ces mêmes droits, d'autant plus que les corporations judiciaires à travers le pays ne remplissent que de façon minoritaire leur office dans le contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement. Et là, la référence, c'est le film « 12 jours » de Raymond Depardon. La réalité du terrain de l'hospitalisation psychiatrique sous contrainte Ce sont les violations, des violations de droits que subissent les patients qui sont légion et qui se pratiquent en toute impunité sans que les intéressés puissent valablement se défendre. En effet, se défendre suppose de connaître ses droits et que ceux-ci puissent être effectifs. Sur ce point, écrit André Bitton, j'attire votre attention sur le texte de Madame Yael Friedman sur le rôle de l'avocat dans le contrôle judiciaire des hospitalisations sans consentement, qui résume très bien ce que nous estimons être nécessaire en vue de garantir effectivement les droits des personnes qui subissent de telles mesures. Vous trouvez également en pièce jointe le dossier déposé par Madame Pauline Runter concernant les alternatives mises en place ou en cours de développement à Marseille. Voilà, et c'est signé donc André Bitton. Et donc c'est ce document qui sont exposés ici que nous allons vous lire, enfin nous allons vous faire partager le contenu.
Alors,
pour commencer, donc oui.
On va commencer par le texte de Yael Friedman du CRPA, qui a été publié ou édité le 30 décembre 2017. À quoi sert l'avocat dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ? Alors, une première partie de la difficulté de la mise en place des droits des usagers en psychiatrie. Avant la loi du 5 juillet 2011, les hospitalisations sans consentement n'étaient pas considérées comme des privations de liberté. Jusque-là, parce qu'il s'agissait de personnes atteintes d'un trouble psychique et de soins, la société déléguait entièrement à l'institution psychiatrique et au préfet la responsabilité du respect des droits fondamentaux et des droits au sein de l'établissement des personnes hospitalisées. Le seul contrôle possible était que la personne saisisse elle-même le juge des libertés et de la détention. Encore fallait-il qu'elle le sache, puisqu'il n'y avait pas d'obligation de l'informer de ses droits et qu'au sein des murs de l'hôpital, elle ait les moyens de le saisir, comme par exemple l'adresse, le papier, l'enveloppe, le timbre. Autrement dit, les risques graves d'atteinte aux libertés et droits fondamentaux au sein des huis clos psychiatriques étaient considérés comme valeurs négligeables et la personne internée un hors-sujet du droit. Si la question de la judiciarisation des mesures d'hospitalisation psychiatrique s'est toujours posée, c'est dans un contexte sécuritaire. Alors ce contexte sécuritaire ramène à une note en bas de page. Deux textes éclairent sur le contexte politique et polémique dans lequel la loi du 5 juillet 2011 est parue. Alors d'abord, la loi du 5 juillet 2011, une loi de défiance à l'égard des malades et de leurs médecins par Didier Boilet et Bertrand Velniard aux éditions Perspective Psy, volume 50, numéro 3, de juillet-septembre 2011. Et un deuxième article, la loi du 5 juillet 2011, tournant sécuritaire et putsch judiciaire par André Bitton, aux éditions L'Information Psychiatrique en 2013. Tous ces articles, vous pouvez les trouver sur Internet. Alors, je reprends. Si la question de la judiciarisation des mesures d'hospitalisation psychiatrique s'est toujours posée, c'est dans un contexte sécuritaire qu'en 2011, les droits des usagers à un contrôle du respect de leur liberté ont été arrachés à coups de questions prioritaires de constitutionnalité par une association qui réclamait depuis les années 70 l'intervention de la justice dans le huis clos psychiatrique. Alors, cette association est le groupe Information Asile, qui a été fondé par des internes en psychiatrie, élèves infirmiers et étudiants en dissidence. En 73, le GIA, donc le groupe Information Asile, traite son premier contentieux d'internement abusif. À partir du début des années 80, l'association, majoritairement composée de personnes ayant connu l'internement psychiatrique et se réclamant de l'internement abusif et illégal, systématise le contentieux de l'internement psychiatrique autour du chercheur Philippe Bernardet. Fin de la note. À ce moment-là, seule une très forte minorité d'avocats et de magistrats, donc là on revient au texte, hein. À ce moment-là, seule une très forte minorité d'avocats et de magistrats s'est mobilisée pour le droit des usagers de la psychiatrie. Pour l'essentiel, le refus de la majorité des corporations judiciaires d'avoir à contrôler les hospitalisations sans consentement, appuyé sur l'idée qu'ils ne peuvent se substituer au rôle du médecin et risquer de laisser sortir une personne atteinte de troubles psychiques, est assimilable à un véritable boycott d'une judiciarisation de l'institution psychiatrique et de la loi. Du côté des hospitaliers, le rejet n'est pas moins massif, arguant que les audiences vont perturber, voire criminaliser des patients déjà troublés et que l'hôpital n'a ni l'infrastructure ni les moyens de déplacer les malades vers les tribunaux. La loi du 5 juillet 2011, modifiée le 27 septembre 2013, vient systématiser les contrôles de la régularité des mesures d'hospitalisation complètes dans les 12 jours, puis tous les 6 mois. Le juge des libertés et de la détention peut maintenir ou lever la mesure. Dès lors, l'hôpital est contraint au respect d'une procédure stricte et précise. Selon les modalités des mesures, un certain nombre de certificats médicaux doit être émis. La mesure doit être notifiée à la personne concernée, qui a également à être informée de ses droits, etc. Pour le détail de la procédure, je vous renvoie vers un article rédigé le 12 décembre 2013 par maître Jean-Marc Panfili, avocat, docteur en droit et cadre supérieur de santé, intitulé « Le juge, l'avocat et les soins psychiatriques sans consentement », publié sur le site du CRPA. En 2015, 78 000 décisions ont été prises par des juges des libertés et de la détention concernant des mesures de soins sans consentement. En moyenne, 8% de ces mesures ont connu une main levée pour raison de faute dans la procédure, ce qui paraît déjà énorme quand il est question de privation de liberté et de soins sans consentement. Alors, comment se déroulent les audiences du juge des libertés et de la détention ? Dans les 12 jours d'une mesure d'hospitalisation complète, l'intéressé est donc convoqué devant le JLD. C'est l'occasion pour la personne hospitalisée qui subit une contrainte aux soins d'exposer sa situation, les remarques ou contestations qu'elle a à faire. Mais ce n'est pas si évident que cela. Entre les droits et leur application, il y a un hiatus. Un des moyens employés par les hôpitaux pour détourner la loi et empêcher la comparution est de placer la personne en programme de soins. Ainsi, un patient qui aurait quelques heures libres chaque jour ne sera plus considéré comme étant en hospitalisation complète et ne passera donc pas devant le juge. Un autre moyen est de certifier par un avis médical que l'intéressé est inapte à comparaître. Plusieurs personnes se sont filmées le jour de leur audience pour témoigner de leur incompréhension d'avoir été considérées comme non auditionnables. Par ailleurs, c'est l'hôpital qui a la charge d'informer le patient de ses droits et 6 ans après la mise en application de la loi, de nombreux patients à qui il n'a pas été expliqué le rôle du juge des libertés et de la détention, le JLD, pensent qu'ils vont être jugés et qu'ils risquent une condamnation. Le film « 12 jours » de Raymond Depardon rend public ses audiences psychiatriques. Il laisse un goût amer. Pas une seule main levée sur les 70 audiences filmées par le réalisateur, dont 10 montrées dans le film. La question de l'isolement et de la contention n'est pas soulevée. Le juge et l'avocat se rangent systématiquement à l'avis des psychiatres, etc. On assiste à une parodie de justice. Jean-Michel Frodon analyse dans le journal Slate, je cite, « Qu'en toute bonne foi, le juge n'a d'autre option que de valider l'avis du médecin, entre parenthèses, qui connaît son métier et lui n'est pas fou, fermez la parenthèse. Et en toute bonne foi, l'avocat ne peut d'une manière générale que se transformer en relais de la double parole d'autorité auprès de son client, si possible en l'adaptant et en l'humanisant, plutôt que s'opposer au diagnostic clinique, a fortiori validé par un juge, fermez les guillemets. Vous servez à quoi, alors ? Demande incrédule un patient à la juge dans le documentaire. Mais à rien ? Je ne sers à rien, lui répond-elle, avant de se reprendre et d'expliquer que son rôle est de contrôler la légalité de la mesure. Et à quoi sert l'avocat ? N'a-t-il vraiment pas d'autres options que de se transformer en relais de cette double parole du juge et du médecin ? Depuis le 1er septembre 2014, la représentation par avocat est devenue obligatoire dans les contrôles systématiques dans les 12 jours et tous les 6 mois. Si les moyens de l'intéressé ne lui permettent pas de prendre un avocat, il lui en sera commis un d'office. Et même dans le cas où la personne est considérée comme inapte à comparaître, elle est en droit de demander à être mise en contact au plus tôt avec son avocat. Pratiquement, l'avocat doit contrôler la régularité de la procédure, entre parenthèses, motivation de l'arrêté préfectoral suffisante, régularité et motivation des certificats médicaux de 24 et 72 heures, notification de ses droits à l'intéressé, fermez la parenthèse. Il doit également vérifier que les doubles conditions à l'hospitalisation sous contrainte sont bien remplies. La présence de troubles nécessitant des soins et selon les mesures le risque d'atteinte à sa propre intégrité ou le risque d'atteinte à l'ordre public et à la sûreté des personnes. La levée de la mesure doit être sollicitée chaque fois qu'une irrégularité est constatée. Au juge de décider si ces irrégularités portent atteinte aux droits et libertés de la personne et qu'une main levée doit s'en suivre immédiatement ou dans les 24 heures. Dans ce dernier cas de figure, l'hôpital peut mettre en place un programme de soins. Le rôle de l'avocat dans les audiences du JLD est de soulever les irrégularités, c'est ce que rappelle la Cour d'appel de Versailles dans une décision du 20 janvier 2017.
Alors là, accrochez vos ceintures, on entre dans le jargon juridique.
Une patiente en SDT, soins à la demande d'un tiers, fait appel de la décision de maintien prononcée par un JLD à son encontre. La Cour d'appel de Versailles rappelle que conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions d'irrégularité d'une mesure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. En l'espèce, aucune exception d'irrégularité ayant été soulevée devant le juge des libertés et de la détention, les exceptions d'irrégularité nouvelles soulevées pour la première fois devant le juge d'appel doivent être jugées irrecevables. Pour autant, la main levée de la mesure de soins à la demande d'un tiers est ordonnée sur le fondement d'un autre point soulevé par l'avocat de la patiente. Aucun avis d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète n'a été transmis au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, et ce, en violation des dispositions prévues à l'article L3211-12-4 du Code de la santé publique, direction des affaires juridiques.
Oui, alors pour expliquer mieux, enfin pour expliquer plus en résumant, quand on est devant le JLD pour la première fois, enfin pour la première instance, on doit exposer les griefs qu'on veut exposer par rapport à l'institution. Et quand on ne le fait que en appel, qu'en audience d'appel, eh bien, ils sont jugés irrecevables parce que c'est ils n'ont pas été perçus par le juge dans la première instance. Et par contre, cette audience, elle a amené à une main levée parce que il y a eu un document qui n'a pas été fourni par rapport à cette audience d'appel spécifiquement. Et c'est pour ça que la main levée a été accordée.
Bon, c'est de la jurisprudence, hein, c'est des termes juridiques, c'est pas évident. Donc il y a une deuxième jurisprudence qui est évoquée, mais on vous l'épargnera parce que c'est pas évident.
Oui, elle corrobore la première en plus.
On continuera. La cour d'appel de Versailles. Ainsi, si l'avocat ne soulève pas en première instance les irrégularités, celles-ci ne pourront plus être jugées, tout au moins plus dans le cadre d'une demande de main levée formulée par la personne concernée. Le rôle de l'avocat est donc crucial, car soyons clairs, les risques d'atteinte aux libertés et droits fondamentaux sont loin d'être négligeables dans les mesures de soins sans consentement. Sa fonction est de représenter son client, de soulever toutes les atteintes portées à ses droits et de défendre sa liberté individuelle face à l'arbitraire des administrations. C'est l'avocat qui rend possible que soient purgées les illégalités et les injustices. Or, le film 12 jours nous rend témoin d'un simulacre de défense. Sur les 10 audiences psychiatriques données à voir, un seul et unique argument de droit est soulevé par l'un des avocats, un certificat médical non circonstancié. Cela n'a pas donné lieu à une main levée. Ces avocats qui ne font pas leur travail, qui ne soulèvent aucun moyen, sont en faute professionnelle. Ils trahissent leurs clients et les conséquences humaines sont déplorables. C'est ce que viennent rappeler les deux jurisprudences précitées de la Cour d'appel de Versailles. Donc on n'en a cité qu'une. La France est d'ailleurs susceptible de subir le même genre de condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme que celle qu'a connue la Croatie le 19 février 2015 pour une mise à l'isolement avec contention injustifiée et absence de garantie procédurale. Et à ceux qui ne soulèvent pas les irrégularités pour ne pas entacher la vie médicale, je voudrais rappeler ces quelques lignes de l'ex-infirmier psychiatre Philippe Clément dans l'ouvrage « La forteresse psychiatrique » publié chez Flammarion Aubier en 2001. « Les soins ne pourront avoir d'action au-delà des symptômes qu'à condition que le malade soit réhabilité dans sa position de sujet. » Réhabilitation qui commence peut-être par donner au malade la possibilité d'être sujet du droit, avec les avantages, mais aussi les contraintes que cela implique, et notamment celle d'avoir à s'expliquer le cas échéant devant la société. Fin de citation. Pour autant, et fort heureusement, de plus en plus d'avocats et de magistrats sont sensibilisés à la question des soins sans consentement et s'efforcent de faire leur travail de juriste. Il est également à espérer que le film 12 jours produise une prise de conscience du chemin qu'il reste à parcourir pour les droits des usagers de la psychiatrie, pour que ces droits cessent de souffrir d'incartades. Citation. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas suivants et selon les règles légales. Dans ce cas, elle doit être informée dans le plus court délai des raisons de sa retenue. Toute personne privée de sa liberté par détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Toute personne victime d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de certains articles a droit à réparation. Article 5 de la Convention EDH, nous rappelle Jean-Marc Pamphili dans son article « Le juge, l'avocat et les soins psychiatriques sans consentement ».
Européenne des droits de l'homme.
Ah d'accord. Convention européenne des droits de l'homme. Combien de mains levées seraient prononcées si les avocats et les juges faisaient leur travail consciencieusement. Fin de l'article.
Eh bien oui, alors ce texte de Yael Friedman, il y a une certaine sévérité envers les avocats, mais voilà.
Moi, je voudrais faire deux choses. Déjà, mettre l'accent sur un détail, mais quand même. Ce petit détail, c'est l'échange de propos entre la personne la personne psychiatrisée dans le docu 12 jours.
Ah oui, que vous avez vu d'ailleurs, oui.
Oui, dont on avait déjà parlé au mois de novembre,
oui,
je crois.
Oui, assez longuement.
Nous le rappelons à nos auditeurs et auditeurs.
Oui, on avait fait toute une émission là-dessus. Et donc, cette problématique avait déjà été abordée, et puis de toute façon, on l'aborde plus ou moins régulièrement. Mais bon, la sortie de 12 jours avait été un prétexte à retravailler sur cette question. Donc la personne qui passe, la neuvième personne qui passe en audience, interpelle la JLD en lui disant « Vous servez à quoi ?» Et elle répond « À rien, je suis bien d'accord avec vous ». Voilà les termes exacts qui sont prononcés. Donc voilà ce petit détail. Et puis, passer le petit détail au contexte général. C'est-à-dire resituer le contexte général de tout ce qui se passe à propos de de ce qui a été évoqué juste avant, c'est-à-dire les droits des personnes psychiatrisées, les droits des personnes psychiatrisées plus particulièrement sous contrainte, et puis la façon dont est régie et dont se passent les audiences devant le JLD. Le cadre général, c'est une aggravation des choses et une aggravation notable. Donc je conseille au passage la lecture du bouquin de Thierry Nagemann qui s'appelle « Le néo-aliénisme ». Donc la venue de, d'une sorte de nouvel aliénisme et dans laquelle la fameuse loi du 5 juillet 2011 est un épisode particulièrement significatif parce qu'elle aggrave les choses, la seule petite ouverture étant justement constituée par la création de cette fameuse audience devant le JLD. Voilà, juste... c'était juste pour resituer le contexte général.
Alors oui, le film 12 jours révèle... presque une impuissance du pouvoir judiciaire au sein des hôpitaux, le pouvoir judiciaire sous la forme du JLD, qui, dans les prisons, officie de façon assez... Enfin, ils sont rodés, quoi, ils sont rompus à juger les de la liberté ou de la détention, enfin des remises de peine, etc. Mais quand ils sont en hôpital psychiatrique, ils sont confrontés à... Ils sont dans un terrain inconnu, en quelque sorte, et ils sont confrontés au pouvoir médical qu'ils ne connaissaient pas. Et à ce moment-là, ils ont beaucoup moins de marge de manœuvre, en quelque sorte.
Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que de toute façon, la loi qui pose le cadre de l'exercice de cette audience, c'est elle qui limite d'emblée leur marge de manœuvre. C'est une des manières avec laquelle on peut regarder ce fameux documentaire de Depardon, 12 jours. C'est pas nouveau. Juste, peut-être on ne vous l'avait pas lu quand on avait parlé de 12 jours, mais en fait... je voulais vous lire la fin de l'article de non pas Éric Favreau, c'est un article de Libé, non pas Éric Favreau, le spécialiste santé de Libération, mais c'est intéressant, un chroniqueur ciné de Libé, celui qui s'était collé 12 jours, qui avait fait un petit topo dans Libé après. Il termine son texte en disant, alors c'est intéressant parce que justement c'est un non-spécialiste, Des questions de psychiatrie, de santé en général, etc., etc., etc. Il termine ainsi. À moins qu'il ne faille y voir l'illustration involontaire, pour l'interrogation, des limites d'une procédure dont, par le caractère unilatéral des arbitrages, on finit par penser qu'elle a pu être mise en place pour le principe.
Voilà, donc là, on rappelle nos auditeurs et nos auditrices que nous écoutons l'émission L'Entonnoir et que nous exposons le contenu des documents que le CRPA a présentés, le CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie, à l'audition réalisée par la DGOS. Voilà. Et il y a un deuxième document que nous allons vous lire, c'est celui écrit par Madame Pauline Reuter. Peut-être pas tout de suite. Est-ce peut-être qu'on fait une plage musicale avant?
Une pause musicale ad hoc.
Je pense que.
Bon, à l'unanimité, les auditeurs veulent une pause musicale.
Donc vous pouvez nous joindre au studio au 01 43 71 89 40 pendant cette plage musicale.
Et voilà, ce sera une chanson qui aurait très bien pu être notre générique B de l'entonnoir.
C'est déjà pas très rigolo d'être schizophrène ou parano. On se dit rarement depuis tout petit. Moi quand je serai grand je serai suivi. C'est déjà assez compliqué de trouver quelque part où loger sans qu'un agent persécuteur puisse se présenter à toute heure et vous dire: toc toc toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Parce qu'un évadé de l'HP s'est retrouvé médiatisé. Faudrait murer tous les patients sous peine de péril imminent. Les fauteurs de troubles publics iront en prison psychiatrique. Et si ça coûte cher au trésor, y'a qu'à les enfermer dehors et leur dire: toc toc toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Un gestionnaire quand ça vous trace, ça prend le soignant pour une menace. Tandis qu'il y a bien assez d'argent pour faire des chambres d'isolement. Un gestionnaire quand ça bricole, ça vous fabrique des protocoles où le parano passe en audience grâce à de la visioconférence. Waouh. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher. Quand vient la nuit sécuritaire, on économise la lumière en enlevant la citoyenneté à ceux qui ont démérité. Résonne alors au coin de la rue l'appel à exclure les exclus, l'insupportable ritournelle du fou dangereux criminel. Toc toc toc, voilà les médocs. Ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection. On vous demande pas la permission. Le médecin juge préfet est là pour vous soigner. Il viendra vous chercher jusque dans la chambre à coucher.
Alors, suite de l'émission.
Là, on va reprendre l'antenne.
On va vous lire le deuxième article que mentionnait André Bitton dans sa dans le récapitulatif de l'audition qu'il a faite. À toi la parole, Jean-Luc.
Donc, ça concerne l'audition de Madame Pauline Reuter. Audition, j'en rappelle la date, du 30 janvier 2018. Je me permets d'intervenir aujourd'hui en tant que membre du CRPA et en tant que membre d'une association marseillaise, PADUP, ça s'écrit P-A-D-U-P-P, et ça signifie pour l'accès et la défense des droits des usagers de la psychiatrie et usagers de produits psychoactifs. Les éléments que je vous soumets sont essentiellement tirés de mon expérience en tant que militante d'une part et en tant que sociologue d'autre part au sein de diverses missions réalisées entre 2004 et 2017. Je suis aujourd'hui juriste et ai réalisé un mémoire sur la voie de recours contre l'isolement et la contention. Master 2, droit de la santé, université Aix-Marseille. On reprend un peu plus loin. Durant ces dernières 13 années, j'ai été amené à faire de nombreux entretiens avec des personnes usagères des services de psychiatrie, environ une centaine de personnes interviewées, parfois sur plusieurs années, parlant en leur nom propre ou au titre de leur participation à une association d'entraide ou de représentation des usagers dans de nombreuses villes françaises de toute taille. Ce cheminement m'a d'ailleurs conduit à fonder très récemment avec d'autres une association de défense des droits à Marseille regroupant des personnes concernées et leurs proches, des chercheurs, des médecins et tout citoyen souhaitant faciliter l'appropriation et l'exercice effectif des droits régis par le cadre législatif et réglementaire, association PADUP. PADUP est associé à ASUS, Association d'autosupport des usagers de drogue, pour mettre en place le projet ODU, Observatoire Défense Droits des Usagers, détaillé ci après. Oui, c'est pas un hasard si j'achoppe le terme usager qui ne m'a jamais été très sympathique. Je sais pas pour vous, mais on pourrait quand même trouver une autre façon d'appeler les personnes concernées. Je reprends le texte. Il ressort des différents terrains que j'ai explorés que les personnes concernées par une expérience des services de psychiatrie développent, en tant que patients, des modalités de coopération avec la psychiatrie, différentes dans le temps, tout au long d'un parcours de soins et d'un service à l'autre. Nous identifions plusieurs obstacles à une coopération favorable à la maîtrise et l'exercice de leurs droits. Les premiers tiennent au cadre médico-légal, les seconds à l'organisation du système de soins, les troisièmes aux ressources mobilisables de la personne, environnement, capital social et culturel, support cognitif. Enfin, les derniers ont trait aux représentations de la maladie psychiatrique chez les soignants, dont on sait qu'elles sont plus négatives chez les soignants qu'en population générale. Au passage, ce qui est vraiment un comble, et plus largement au sein des services susceptibles d'accueillir un recours police et justice. Le système de soins psychiatriques relève en effet d'un cadre médico-légal spécifique auquel se surajoute, parfois dans une certaine contradiction, un arsenal juridique détaillant les droits de tout usager du système général de santé. Les témoignages attestent du fait que de nombreux patients ont des souvenirs négatifs des temps d'hospitalisation, bien qu'ils ne recouvrent pas toutes les hospitalisations vécues dans le même parcours. Il est alors question, à maxima, de restrictions franches à la liberté de circulation, de contention, de traitements médicamenteux imposés, jugés trop lourds ou inadaptés, et à minima, de pression, de chantage, d'infantilisation, de sentiments de discrédit et d'humiliation. S'agissant de l'organisation du système de soins, les personnes concernées évoquent d'une part la limitation des choix quant à l'accompagnement et sa continuité. Choix de son médecin, de son équipe, de la méthode d'accompagnement et des médicaments, contrainte de la sectorisation telle qu'elle est opposée aux patients, et d'autre part, la disparité quant à la possibilité pratique d'exercer ses droits. Entre parenthèses, recours contre une hospitalisation considérée comme abusive, atteinte à l'intimité, réclamation indue du forfait hospitalier, délai et coût pour accéder directement à son dossier médical. De nombreuses expériences d'hospitalisation renvoient à deux types de situations. Celles dans lesquelles les personnes concernées livrent une expérience d'impuissance absolue versus celles faisant état de ressources personnelles, entre parenthèses, expérience militante, associative, niveau d'études, statut, ressources financières, ou environnementales, soutien de la famille ou de proches, réseau social, ayant permis de déployer des stratégies pour chercher les bonnes informations et maintenir un certain niveau de choix dans un univers contraint et a fortiori la possibilité de défense de ses droits. Il ressort des expériences qui me sont rapportées régulièrement trois thématiques, entre guillemets, récurrentes. Le respect des droits en cas d'hospitalisation contrainte, mais aussi libre, information et effectivité de l'exercice des droits. Les procédures de tutelle et curatelle considérées comme abusives, inadaptées ou devenues sans objet. La difficulté à faire valoir ses droits parentaux en cas d'antécédents psychiatriques, entre guillemets, autorité parentale, garde des enfants, droit de visite ou à faire valoir les droits des enfants mineurs hospitalisés, parfois en psychiatrie adulte. L'introduction du juge des libertés et de la détention constitue indéniablement une amélioration dans le cadre d'une législation récente qui maintient malheureusement, comme les lois précédentes, des exceptions propres au système de soins psychiatriques. Cela étant posé, le système médico-légal applicable en psychiatrie, public ou assimilé, parce qu'il autorise toujours le corps médical et soignant à imposer ou fonder la décision administrative ou judiciaire, entre parenthèses traitement médicamenteux, hospitalisation, contention, chambre d'isolement, mesures de protection, place toujours de nombreux patients dans une situation de dissymétrie qui les oblige à développer des stratégies pour éviter les contraintes, y compris lorsque le soin est dit libre. À titre d'exemple, nous citerons le fait de prendre un traitement neuroleptique pour ne pas être mis en chambre d'isolement, de subir des injections tous les mois au centre médico-psychologique pour ne pas retourner à l'hôpital, de ne pas réclamer le respect de ses droits avec véhémence pour conserver sa liberté de circuler dans l'hôpital ou obtenir des sorties d'essai, de ne pas se rendre aux urgences en cas de crise pour ne pas être retenu contre son gré pour une durée inconnue a priori. Dans un tel contexte, faire valoir ses droits est bien souvent considéré comme une stratégie perdante à court terme concernant les restrictions actuelles à la liberté d'aller et venir, de choisir son traitement, son médecin, d'exercer ses droits parentaux, etc. Il s'agit de ne pas faire valoir un droit pour ne pas en perdre un autre. Et ces stratégies restreignent parfois l'accès à un accompagnement sanitaire ou social. Par ailleurs, en l'absence d'alternatives massives à l'hospitalisation psychiatrique, la psychiatrie constitue pour de nombreuses personnes une ressource qu'elles ne veulent pas perdre. Porter plainte, c'est bien souvent risquer une rupture du lien avec une équipe médicale ou un service, quand c'est seulement un manquement ponctuel que l'on veut dénoncer. Nombreuses sont les personnes qui n'osent pas demander justice après coup et qui ne savent en l'occurrence pas comment s'y prendre puisqu'elles ne connaissent en général ni le contenu précis du droit en tant qu'usager du système de santé ou en tant que personne faisant l'objet d'un soin ou d'une hospitalisation sans consentement, ni les associations locales agréées, ni les comités internes aux établissements, commission des usagers, CRUQPC, ni la commission départementale des soins psychiatriques, ni le défenseur des droits ou le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ou plus simplement la possibilité d'écrire au procureur de la République ou de se rendre dans une permanence généraliste d'accès aux droits ouverte aux citoyens. Enfin, l'auto-stigmatisation des personnes elles-mêmes, comme le coût psychique et financier d'un engagement dans une procédure contentieuse, sont autant d'éléments qui entravent l'exercice effectif des droits. S'agissant des réformes récentes, 2011 et 2013, elles reçoivent peu d'informations sur le nouveau cadre légal. La remise d'un document, quand elle est effective, ne suffit pas à s'assurer de sa compréhension. Et il y a fort à penser que les plus contestataires ne soient pas autorisés par le corps médical à se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention.
Je poursuis. Bref, la question du respect des droits des personnes suivies par la psychiatrie publique ouvre un débat plus large sur la légitimité de la pratique de la contrainte, soins ou hospitalisation, isolement et contention, dont aucune donnée scientifique validée internationalement ne prouve l'impact thérapeutique. La rencontre qui est devenue plus systématique entre les patients et le juge des libertés et de la détention, augmentation de plus de 50% depuis 2012 du nombre de saisines du JLD dans le cadre du contrôle obligatoire, est l'occasion de poser les termes d'un débat sous un angle plus pratique que théorique sur la pertinence de l'offre de soins actuelle en France. De ce point de vue, les recommandations récentes de la Haute Autorité de Santé sont précieuses. Il reste à organiser les moyens de leur application effective. De nombreuses études menées à l'étranger ont montré que la mise en chambre d'isolement était plus corrélée à des facteurs liés à l'équipe et au service qu'à des facteurs liés à l'agitation ou à la violence des patients hospitalisés. La littérature internationale tend, quant à elle, à prouver que la non-utilisation de la chambre d'isolement, comme de la contention, est thérapeutique. Des expériences nord-américaines se sont orientées vers des méthodes alternatives à la chambre d'isolement avec succès. Les participants au congrès international mené en 1999 au Québec sur le sujet de l'isolement et de la contention concluent que nulle part on a pu démontrer que l'utilisation plus fréquente de la contention assurait une meilleure sécurité des personnes. Alors je lis la note 2, hein. Lors du colloque international sur l'isolement et la contention, pour s'en sortir et s'en défaire, auquel prenaient part près de 500 personnes provenant du Québec, de plusieurs provinces du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, plus d'une quarantaine de conférenciers et de conférencières de qualité issus de domaines et champs d'intérêt divers, y compris des personnes utilisatrices de services en santé mentale, vinrent y partager leurs expériences. Fin de la note. De surcroît, les études disponibles tendent également à démontrer que les techniques de contention ne facilitent pas le travail du personnel en raison de ses effets néfastes sur les plans physiques et psychologiques. Du point de vue des usagers, l'introduction d'un contrôle judiciaire systématique a posteriori des décisions d'hospitalisation sans consentement est une avancée qui reste encore trop théorique. Et à l'heure d'une consécration grandissante des droits des personnes soignées, les lois en vigueur forment toujours un monument d'ambivalence peu propice à ce que les usagers puissent s'en emparer avec efficacité. Que nous disent les chiffres études disponibles ? Sur l'isolement et la contention, la part des patients isolés sur le total des personnes hospitalisées varie de moins de 5% à 30% d'un département à l'autre en 2015, selon le rapport Coldéfi de 2017. Et entre 2003 et 2015, la part des personnes hospitalisées ayant connu l'isolement est passée de 4 à 8%. Si on focalise sur Marseille, par exemple, ces chiffres sont respectivement de 30% au CHS Édouard-Toulouse, 25% au CHS Valvert et 10% à PHM Hôpital Général. Selon les données fournies par Magali Coldéfi pour l'année 2015. Pour les D398, ces chiffres varient de 40% à plus de 90% à Marseille. La grande majorité des pays occidentaux utilisent des mesures d'isolement et contention. Ainsi, sur une période d'un an, jusqu'à 35% des personnes hospitalisées en psychiatrie ont vu le personnel soignant utiliser des mesures coercitives à leur endroit. Ce taux grimpe à 65% si l'on se réfère à une période de 3 ans. Magali Coldefi, les soins sans consentement en psychiatrie, éléments statistiques. Étude élaborée pour le compte de la Direction Générale de la Santé, Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé, présentation au groupe de recherche de l'équipe Mouvement et Action pour le rétablissement sanitaire et social, Mars, assistance publique des hôpitaux de Marseille, 1er décembre 2016.
Juste au passage, on ne peut que poser la question, avec tout le respect pour le travail de Magali Coldefi qu'on peut avoir à l'entonnoir, on ne peut d'une façon plus générale que poser la question de la validité de tels chiffres. Parce qu'on sait très bien que, pour le moment, les instances, comment on pourrait les qualifier, qui interviennent dans les services pour contrôler la mise sous contrainte, la mise à l'isolement et l'usage de la contention, sont vraiment, on ne peut plus limiter, et que les choses sont... D'après ce que l'on sait, dépendent beaucoup des déclarations des différents services eux-mêmes, ce qui pose encore une fois la question de la validité de tels chiffres.
Tout à fait. Je poursuis. Plusieurs types de facteurs prédisposent à l'utilisation des mesures d'isolement et de contention. Les facteurs propres aux patients, les facteurs découlant des caractéristiques du personnel soignant et les facteurs en lien avec les caractéristiques des services de soins. Sur les hospitalisations sous contrainte, on sait également que le fait d'être sans chez soi, issu d'une minorité ethnique visible et l'absence d'une alternative sur le territoire sont des facteurs bien documentés d'hospitalisation sous contrainte. Il y a très peu de preuves de l'efficacité des soins sans consentement sur l'état de santé, l'usage des services de soins et la satisfaction. Mais les effets négatifs des hospitalisations sans consentement sont identifiés. Expérience très négative, impact négatif sur la qualité de vie et évitement des futures hospitalisations. Voir la revue de littérature des protocoles sur les directives anticipées en psychiatrie. Quelles sont, à notre connaissance, les expérimentations qui promeuvent l'exercice des droits et les alternatives à la contrainte ? Point d'accès aux droits, voir l'expérimentation ASUD pas dupe soutenue par l'ARS PACA, lieu de répit, lieu d'accueil non médicalisé, encadré par des professionnels expérimentés à la gestion de crise. L'expérimentation marseillaise débute sur le modèle de l'expérimentation new-yorkaise, parachute comme alternative à l'hospitalisation contrainte en cas de crise, méthode de l'open dialogue, peer intentional support, réduction des risques et gestion autonome de la médication. Alors là, peut-être que je peux préciser que le terme réduction des risques n'est pas associé dans ce modèle américain à ce que nous on pense quand on dit réduction des risques. Bon. Directive anticipée, voir la thèse de Magali Pontier, le protocole DAP préposé pour un PREPS par le laboratoire de santé publique de la faculté de médecine de Marseille, professeur Hauquier, auprès de 400 personnes, Marseille, Lyon, Paris, Chambéry. On peut retenir ici que ce type de mesure, promue par le comité de suivi de la Convention de l'ONU, plaide en faveur d'un système de prise de décision assistée, nécessite des facilitateurs et doit s'appliquer à toutes les situations d'incompétence décisionnelle transitoire. Et enfin, dernier point, l'empowerment par la formation par et pour les usagers, voire l'expérimentation du COFOR. Donc, c'est quatre exemples d'alternatives proposées par Pauline Renter. Dernière remarque. Les voies de recueil des atteintes aux droits sont nombreuses. Plaintes, circuits de signalement d'événements indésirables, courriers simples, témoignages directs ou au sein d'associations, etc. Nous espérons que l'Observatoire national des soins contraints sera également un observatoire des pratiques et expériences permettant de réduire la contrainte dans les soins et plus généralement les atteintes aux droits. Autrement dit, que cet observatoire aura une visée pratique. Enfin, je vous invite à auditionner largement les associations de personnes directement concernées. Fin de l'article.
Ce qu'on peut dire, c'est que cette audition a un grand mérite de resituer la problématique dans le cadre général des droits des personnes hospitalisées sous contrainte. Auparavant, on avait plus parlé de l'histoire de la loi du 5 juillet 2011 avec la fameuse création de l'audition du JLD. Bon, juste pour revenir un petit peu en 3 secondes sur ce problème. Bon, c'est sûr que la loi offre des possibilités très 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 limitées d'intervention, que ça soit pour le juge. Et que ça soit pour l'avocat de la personne psychiatrisée, et que bien sûr le combat pour de se battre pour une application maximum donc améliorée par rapport à l'état actuel des choses de cette loi est tout à fait justifié et admirable. Et c'est un combat que mène le CRPA. Mais par contre, tant que la loi en restera à ce qu'elle est. Eh bien, le maximum d'effet de cette loi sera vite atteint. Et il est peut-être à envisager une amélioration de la loi, la création d'autres lois qui viseraient à remettre en cause le pouvoir psychiatrique quasi exclusif qui est exercé à l'intérieur des murs, même si on n'est plus du temps de l'aliénisme. On est simplement maintenant dans le néo-aliénisme, n'est-ce pas ? Et donc, parce que bon, tant qu'on sera dans la situation où le juge, dans sa fonction de JLD, ne peut absolument pas remettre en question l'avis médical qui reste donc tout puissant, eh ben, on butera toujours et toujours et encore sur la même limite.
Oui, parce que pour un moment, voilà, ils avancent à petits pas, un coup de jurisprudence. Et il y a encore beaucoup de travail à faire, en gros. Eh bien, ainsi se termine l'entonnoir. Si nos amis de Plus en Liberté sont là, avec Charles Mingus, pour commencer.